Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à tous, nous allons ouvrir le premier livre de la Bible, c'est-à-dire le livre de la Genèse. Et je voudrais partager avec vous ce message assez étrange, mais qui est révélateur de l'histoire de l'humanité à travers tout ce cheminement qui nous amène jusqu'à notre monde d'aujourd'hui, et avec la révélation de certaines choses qui répondent à des préoccupations des hommes, préoccupations de toujours. Alors, nous avons donc dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, ce texte, le serpent, qui est l'image naturellement de l'ennemi, de l'adversaire, adversaire de Dieu et adversaire des hommes, que la Bible appelle le diable ou Satan. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre ?» Entendez par là l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux ou comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Alors, nous ajoutons ceci, c'est que dans la promesse faite par le diable, qui est appelé aussi dans un autre passage de la Bible « Père du mensonge », donc le diable qui s'adresse à Ève, lui présentant cette alléchante proposition, c'est-à-dire d'atteindre un état semblable à celui d'un dieu ou tout simplement de Dieu. Nous savons que le diable a pris garde de dire à Ève que cette folle prétention était un état de rébellion contre le Dieu véritable. Le décalogue commence par « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». C'est le premier des 10 commandements que Dieu adresse à Moïse pour qu'il le transmette au peuple d'Israël. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Dieu a donc prononcé un jugement sur tous les faux dieux, ou tout ce qui peut se présenter comme du faux dieu, que l'on idolâtre, et pouvant exister dans, sur cette terre. Dans Ésaïe, Dieu ajoute ceci, « Je suis le premier, et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. » C'est-à-dire que c'est tout simplement l'unicité, Dieu unique. Alors, point et besoin d'adorer des astres, des représentations inanimées, les derniers jours de l'histoire humaine se caractériseront par l'adoration de l'homme, l'homme lui-même, s'adorant lui-même, se croyant, devenu un dieu en puissance. La Terre chancelle, puisqu'elle abrite plus de 7 milliards d'individus de nos jours, l'homme demi-dieu, où chacun cultive son ego déchu, son moi, si nous pouvons dire d'une autre manière, s'efforçant, comme il le peut, de régner sur son petit empire personnel. Et vous savez que Jésus dira que celui qui voudra garder sa vie, sa propre vie, la perdra, et celui qui la donnera à Dieu, tout simplement l'offrira à Dieu, simplement, la retrouvera. Ça, c'est Jésus qui l'affirme. Le message de Jésus dans son entier a été de dire aux hommes que le seul espoir possible pour être sauvé était de renoncer à soi-même, de lui céder notre vie volontairement. Ça ne doit pas être ça ne doit pas être une obligation difficile, mais ça doit être véritablement un bonheur et quelque chose qui se fait de cœur, de porter sa croix, de nous soumettre à sa volonté par une repentance sincère. Le fait de ramener tout à nous-mêmes, notre vie, nos succès, notre volonté fait de nous des petits dieux et nous entrons en opposition avec celui qui est réellement Dieu, qui l'est réellement. Sachons-le, Dieu n'abdiquera jamais sa souveraineté au profit de l'élévation orgueilleuse des hommes. La pensée centrale de l'Évangile n'est ni matérialiste, ni humaniste, c'est-à-dire en effet d'autres dieux. Elle se préoccupe uniquement de la gloire du Créateur, gloire de Dieu et de l'obéissance à sa parole, qui, là, en découle tout simplement la foi que nous saisissons. Dans les derniers temps, il viendra toutes sortes de courants de pensée, reprenant le premier mensonge, vous serez comme des dieux. Et à ce titre, il y a là toute une kyrielle de philosophie, de pensée religieuse, de théologie, tout ce que vous voudrez. Mais je voudrais souligner une chose, c'est que le christianisme est la forme la plus élevée, tout simplement, qui soit. Son Dieu est le Dieu du Sermon sur la montagne, un Dieu personnel qui s'approche et parle aux hommes. Il est l'unique créateur de l'univers. Et il est à la fois transcendant et immanent, ce qui veut dire qu'il est au-dessus de tout et il est en tout, absolument distinct de sa créature. C'est un Dieu de loin et un Dieu de près. Le christianisme est une conception tout simplement trinitaire. Quant à l'homme, une unité en trois éléments, corps, âme, esprit. Et quant à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est-à-dire que le christianisme est la révélation la plus complète et la plus pure de l'homme, de Dieu à l'homme. Nous avons toutes sortes de philosophies, j'en ai touché deux mots il y a un instant. Il y a l'agnosticisme, je me permets de faire une digression et de donner quelques pensées qui ont parcouru toute l'histoire de l'humanité. L'agnosticisme, Dieu est un être inconnu et inconnaissable. Et il y a l'athéisme, c'est la négation absolue de l'existence de Dieu, d'un Dieu, de Dieu, un seul principe dans l'univers, dont tout dépend, c'est la matière, rien d'autre que la matière. Le panthéisme, c'est Dieu partout, Dieu en tout, Dieu sur tout. Dieu n'y est pas personnel et vivant, mais c'est une force. Un principe intérieur à la matière, d'où négation de la liberté de la personnalité, celle de Dieu comme celle des hommes. Il y a le dualisme, il y a le théisme, mais je rappelle et je souligne avec insistance que la forme de la révélation la plus complète, c'est le christianisme de l'Évangile apporté par Jésus, réalisé et apporté par Jésus. Alors vous serez comme des dieux, dit tout simplement, le diable à Ève. Et nous voyons que c'est tout simplement l'esprit du premier mensonge qui va s'infiltrer dans l'Évangile pour le corrompre, à travers les religions également, mettant la croix de côté, niant le sacrifice de Jésus et sa valeur, le péché comme n'étant pas une réalité, la nature dépravée en oubli, éviction du salut nécessaire. Et tout cela, fixera toute l'attention sur un profit terrestre de promotion de l'homme uniquement, de promotion de l'homme. Il y a naturellement des signes qui marquent les temps. Et nous sommes dans ces temps qui finalement nous parlent de ce que nous sommes devenus, de ce que nous sommes, là à travers tout simplement un écrit de l'apôtre Paul dans l'épître aux Thessaloniciens, ou plutôt dans Timothée, il est dit ceci, « Sache que dans les derniers jours, c'est-à-dire nos temps, il y aura des temps difficiles. Et pourquoi cette difficulté? Car les hommes seront égoïstes. Ils seront amis de l'argent, on le constate. Ils seront fanfarons. Ils seront hautains. Ils seront blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, préférant le mal, traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la foi, donc de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, c'est-à-dire la réalité pratique, tout simplement. Alors ce sont les signes des temps. Voilà, il y avait le premier mensonge que nous avons saisi dans le livre de la Genèse, et puis nous avons la constatation et l'observation de ce que le monde est aujourd'hui. Il a toujours été comme ça, mais nous pouvons dire que véritablement il y a eu une amplification du mal et de l'inconscience, de l'insouciance, et peut-être même dire que finalement les hommes sont dans une sorte d'aveuglement sur eux-mêmes. Si nous regardons à ce qui se fait pour nous induire dans l'erreur et nous faire croire que l'humanité est parvenue à un haut ou très haut degré d'élévation, le monde se présente ainsi. Par exemple, ce sont des exemples, hein, je crois que tout cela eh bien, reste naturellement très relatif, hein, mais par exemple la place accordée aux enfants, que nous tenons pour des petits rois, que nous traitons comme des petits rois qui, quelque part, eh bien, font peut-être tout simplement leurs caprices et où les parents cèdent. Plus de remontrance, plus de contrariété, et c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Il nous est dit que dans les derniers temps, les enfants seront rebelles à leurs parents. Ça, c'est la question finalement eh bien, des générations à venir. Le physique maintenant, c'est-à-dire tout ce que nous sommes sur le plan de notre corps. Nous avons naturellement eh bien, cette ambition de devenir ou de faire de chacun d'entre nous des Adonis, c'est-à-dire la beauté, l'éclat, la jeunesse, enfin toutes sortes de choses, la plastique, que ce soit ce grand dilemme entre la maigreur ou la grosseur, hein, toutes sortes de tares insupportables sur le plan physique, où là on pousse vers l'esthétisme, le sport, le muscle, l'anti-vieillissement. Pourtant, il n'y a jamais eu autant de gens complexés dans notre monde d'aujourd'hui. Nous pouvons parler également du moral et du mental. Nous sommes dans une société qui est véritablement, eh bien là, particulièrement affectée par le moral, par touchée par les dépressions, par le stress, par toutes sortes de tensions jusqu'à quelquefois dériver jusqu'à se supprimer. Être bien dans sa tête. Et pour cela, eh bien, s'offre de moyens et des méthodes soi-disant révolutionnaires capables de nous libérer. Ça, on vante la liberté. Nous savons qu'il n'y a que ces genres de mots qui, aujourd'hui, ont cours. Cela va du défoulement collectif à travers toutes sortes eh bien là, d'exercices, d'une manière ou d'une autre, en passant par le yoga. Je voudrais souligner que le yoga veut dire, tout simplement, a pour signification lien, chaîne, lié. Relaxation et thérapie ou psychothérapie de la décontraction, développement du potentiel humain, réalisation de soi et de sa personnalité. Pour être quelqu'un, eh bien, il faut absolument, eh bien, là, courir de droite et de gauche et puis se donner, eh bien, là, les moyens de pouvoir se distinguer des autres. Et en ce qui concerne l'excentricité et l'originalité, ça, c'est certain que chacun y va qui mieux. L'entraînement pour les performances, devenir des champions, devenir la conquérir jusqu'à l'impossible. L'utilisation finalement de toutes ces techniques, même dans les affaires, le commerce et toutes sortes de choses, parce que le corps est devenu finalement un objet de déification. Il y a naturellement dans tout cela eh bien, une foule de techniques étranges, emprunté ou d'inspiration orientale. Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup, il y a des ouvrages, il y a des livres qui ont été écrits pour le bien-être, pour la performance, pour évaluer finalement ou tout simplement corriger pour eh bien augmenter notre personnalité. Tout cet attirail se veut œuvre de l'esprit, mais pas celui, en tout cas, du Saint-Esprit. Parce que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est une œuvre interne, une œuvre intérieure et non pas externe. Parfois, on se demande si l'homme a encore conscience de ce qu'il fait, de sa dignité obnubilée par la recherche de lui-même. C'est Jésus qui dira cette parole que nous avons dans l'évangile de Marc et de Matthieu et au chapitre 11. Il dira « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants, donc aux modestes, à ceux qui font confiance, à ceux qui sont humbles. » Voilà le culte de l'homme et nous croyons, Père, que tout cela eh bien, nous a été dit par Jésus, nous le rappelle. Prétendant être un surhomme, vous serez comme des dieux, c'est ce que le diable dit à Ève, eh bien, le voilà qu'il se comporte en sous-homme. La Bible dit, naturellement, et je le rappelle, vous serez comme des dieux. Ce n'est qu'une illusion, ce n'est qu'une caricature, ce n'est que, finalement, eh bien, un maquillage. Vous serez comme des dieux. C'est une aberration et une folie. Nous avons également, eh bien, les résultats de cet égarement humain. À travers eh bien, ce qui nous est dit dans l'Épître aux Romains, Paul dit ces choses, tout simplement, il est bon tout simplement de les rappeler, il est dit cette parole, « Les hommes sont inexcusables puisque Dieu, finalement s'est fait connaître à eux. Et un peu plus loin, ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc ce n'est pas la lumière, c'est le contraire. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils sont devenus insensés. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles, etc., etc. Mais ça poursuit également, Paul poursuit en disant ceci, c'est pourquoi, en raison de cette folie, en raison de cette inintelligence spirituelle, en raison de ces ténèbres qui environnent les hommes, c'est pourquoi Dieu les a livrés, c'est-à-dire il les a laissés faire. Dieu ne les a pas empêchés. Il les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Quand la Bible parle d'apostasie, c'est-à-dire le rejet de la vérité, particulièrement significative dans les derniers temps, dans les derniers jours, elle annonce, entre autres, ce trait qui marquera le monde sous des formes scientifiques et intellectuelles, les hommes deviendront fous, tout en croyant avoir atteint le plus haut degré de la sagesse. Et le mensonge récurrent revient, et nous savons que Ève entend « Vous serez comme des dieux, vos yeux s'ouvriront ». Connaissant le bien et le mal, c'est-à-dire que ça veut dire que tout simplement, eh bien, c'est le contraire de ce que Dieu a créé dans l'homme, quand dans le jardin d'Éden, avant le péché, l'homme était voyant, bien voyant, et après, dans cette inversion de choses, il devient aveugle. Vos yeux s'ouvriront, et vous connaîtrez le bien et le mal. Alors connaître le bien, ce n'est pas un problème, mais connaître les abîmes du mal, être plongé comme les sociétés humaines, à travers tous les siècles, à travers les millénaires, eh bien, on sait que ce que ça veut dire, c'est la maladie, c'est la mort, c'est la guerre, c'est le sang. Nous savons que tout cela, eh bien, est une réalité à travers tous les siècles et d'autant plus dans notre monde d'aujourd'hui. Le livre des Proverbes dit ceci, « Ne sois pas sage à tes propres yeux. » Et ensuite, ce proverbe poursuit, « Crains Dieu et détourne-toi du mal. » Le prophète Ésaïe surenchère et dit « Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien, qui changent. » Eh bien là, la vérité en erreur et l'erreur en vérité, et on peut naturellement multiplier à l'infini. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Et ça, c'est quelque chose, en effet, de fou de savoir que c'est l'orgueil qui amène les hommes à s'illusionner sur eux-mêmes en pensant qu'ils sont immortels, qu'ils sont tout-puissants, qu'ils ont le pouvoir sur tout, qu'ils sont capables, eh bien là, d'aller bien au-delà de tout ce qui peut être imaginable. Le monde ignore la réalité du prince de la puissance de l'air. Ça, c'est un des noms qui a été donné, qui est donné dans l'Évangile, eh bien, au démon, c'est-à-dire à Satan, prince de la puissance de l'air, prince de ce monde, qui est avant tout un manipulateur. Enfin, dans les derniers temps, dans les temps précédant le retour de Jésus-Christ, apparaîtra celui qu'on appelle l'Antéchrist. Je crois qu'il faut dire un mot, parce que c'est une réalité de notre temps, une réalité de tout le temps, parce que des antéchrists, il y en a eu, en effet, eh bien là, certainement, qui se sont succédés les uns après les autres, c'est-à-dire l'homme qui va représenter pour l'humanité le surhomme, l'homme déifié, celui que l'on va adorer comme Dieu. À sa venue, le monde entier sera convaincu, et il sera non seulement convaincu, mais il sera fasciné par cet apparent état divin. La beauté, la connaissance, la toutes sortes de capacités, et nous voyons que il va tout simplement être adoré par les hommes. Satan lui-même lui donnera des pouvoirs surnaturels pour appuyer sa prétention à être le premier homme, à avoir pleinement réalisé le potentiel humain. Alors en fait, de potentiel humain, il faudrait peut-être savoir un peu ce qu'il en retourne, et nous voyons que dans les Thessaloniciens au chapitre 2, Eh bien, nous avons naturellement un petit aperçu de ce que sera l'Antéchrist, de ce que sera l'homme-Dieu, l'homme, en effet, prétendument, qui se prétend Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit au chapitre 2 de 2 Thessaloniciens et verset 4, il est dit ceci. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, c'est-à-dire le rejet de la vérité, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, c'est-à-dire l'Antéchrist, l'homme, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou que l'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le trône, sur le trône de Dieu, dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Vous savez, il y a eu des dictateurs, il y a eu des, tout simplement des tyrans dans le monde qui sont apparus d'une manière ou d'une autre, sur un plan royal, sur un plan militaire, à travers toutes sortes, en effet, de choses qui ont fasciné des nations, qui ont fasciné le monde, et qui ont été suivis par des millions et des millions avec leur doctrine, avec, en effet, des capacités qui ont mis les finalement les hommes à genoux, hein, quelque part. Hein. Alors, nous voyons que lui va réaliser, en apparence, le potentiel humain. Ce dominateur mondial traînera à sa suite ceux qui n'auront pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et ça, c'est le drame, hein, parce que nous savons qu'il nous est dit à un moment donné que Dieu les livre tout simplement à l'aveuglement, à la perdition, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Et la vérité, c'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui, eh bien là, livre au monde ce qu'ils ont besoin de savoir pour croire et croire dans ce qui est vrai et non pas dans le mensonge. C'est la contrepartie, c'est le contre-pied, c'est le, on pourrait dire, l'antidote au mensonge premier que nous avons lu tout à l'heure dans le livre de la Genèse. Alors ce dominateur mondial aura à sa suite, eh bien là, toute une armée, toute une cohorte, parce que finalement, eh bien, ils auront aimé l'erreur, ils auront aimé l'injustice plus que la vérité pour être sauvés. Les hommes en quête de puissance, de réalisation de soi, et verront en lui, en l'Antéchrist, un espoir fantastique pour une humanité nouvelle, pour une humanité, un monde nouveau, et croiront enfin y être arrivés. L'Antéchrist symbolisera la divinité que tous espéreront atteindre et le déclareront comme le leader incontesté. Ils l'adoreront comme Dieu, lui rendront un culte comme si c'était Dieu, désirant se mettre à ses pieds, se soumettre à sa puissance, enfin d'apprendre le secret qu'il a découvert pour devenir eux-mêmes, eh bien, en quelque sorte, à sa ressemblance, en se disant que si lui, cet Antéchrist, y est arrivé, tous, ensuite, enfin, pourront également y parvenir. Le mensonge premier sera, eh bien, tout simplement, totalement consommé. La conclusion de ce message sera la suivante. Il y a bien longtemps que le vrai Christ nous a offert un autre et vrai chemin, un autre, une espérance d'un autre monde meilleur où le mal, le péché, la corruption aura complètement et totalement disparu. Et nous voyons que ce vrai Christ, ce vrai chemin, eh bien, nous sommes invités à suivre ses traces par ce qu'il nous dit d'abord et par son exemple. Croire à la vérité de sa parole, où le seul passage possible reste la mort à soi-même. Nous voyons que le diable insuffle, instille à tout simplement, eh bien, les premiers parents qu'il faut être grand, il faut être beau, il faut être fort, etc. Et qu'il faut tout simplement vivre éperdument. Mais nous voyons que le seul passage qui nous est annoncé dans l'Évangile, c'est une mort à soi-même. C'est pas de se suicider, pas du tout. Mais c'est véritablement que tout ce qui est mauvais en nous, tout ce qui est, eh bien, la contraire à la volonté de Dieu, et Dieu nous a mis en conscience, il nous a donné une conscience, puisqu'il nous a dit qu'il a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité, eh bien que, tout simplement, la mort à soi-même, la reconnaissance du péché, c'est-à-dire de dire, eh bien, je suis pécheur, je suis perdu parce que je suis pécheur, de dire également que le sacrifice volontaire de notre volonté, il n'y a de volontaire de notre volonté, eh bien, c'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est pas quelque chose d'obligé, c'est pas une contrainte, hein, mais c'est véritablement une volonté qui nous est, qui est animée, parce que c'est Dieu qui nous crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, et c'est quelque chose qui est un bonheur, c'est quelque chose qui est une joie, c'est véritablement, eh bien, tout autre chose que là, eh bien, ce mensonge de l'adversaire. Et tout simplement, pour atteindre en Jésus, pour atteindre par Jésus, et pour atteindre pour Jésus, en lui, par lui et pour lui la stature parfaite de l'homme nouveau en Christ. C'est ça le message de l'Évangile. Bien autre chose que la promesse mensongère de l'ennemi dans le jardin d'Éden. Bien autre chose aussi que la caricature du prétendu homme supérieur qu'offrira l'Antéchrist. Et pour terminer, je voudrais finir avec ces propos de Jésus. Jésus dit à tous, « Je suis le chemin, suivez-moi. Je suis la vérité, croyez-moi. Je suis la vie, acceptez-moi. Nul ne vient au Père que par moi. » Je paraphrase et je dis « Nul ne vient, nul ne revient au Père que par moi. » Il n'est pas question de retourner dans le paradis perdu, le jardin d'Éden, mais il est question maintenant de se préparer parce que le véritable paradis, il n'est pas en bas, il est en haut. Alors que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous donne sa grâce, qu'il nous fortifie et qu'il nous donne aussi le don de croire à sa parole qui est la vérité. Jésus dira à son Père dans la prière sacerdotale dans Jean chapitre 17, « Ta parole est la vérité ». Et je fais ta parole, les désirs et les délices de mon cœur. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un autre message.